mes très chers auditeurs. Mon pays m'a fait mal par ses fables d'esclaves. Par ses bourreaux d'hier et par ceux d'aujourd'hui. Mon pays m'a fait mal par le sang qui le lave. Mon pays me fait mal. Quand sera-t-il guéri ? 8 novembre 1944. Le plaisir d'une rencontre dans les ruelles de Paris, tout comme celui de partager avec vous les secrets, les ombres et les lumières de la politique, ont eu raison de ma détermination. Je m'étais pourtant promis d'attendre septembre pour lancer cette nouvelle émission, mais je ne résiste pas à l'envie de vous faire part d'une belle rencontre. Me voici donc citant pour vous Robert Brasillach. La référence est sulfureuse à souhait, mais l'homme dont nous allons parler aujourd'hui ne l'est pas moins. Et, tout républicain convaincu que je puisse être, je ne peux m'empêcher d'être d'accord avec celui qui disait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et si quelques MacMahon, François Ier, viennent nuancer le propos, les rues de Paris en sont l'exemple même. La République, Hoche, Marceau, Kléber, Lafayette, Ledru Rollin, Masséna Raspail et même Garibaldi. C'est donc en face du café Danton que je rencontre notre invité d'aujourd'hui, Ariane Chemin, grand reporter au Monde qui vient nous livrer les secrets d'un homme qui, lui, n'a jamais aimé la République, la gueuse, et qui, fort de son influence un temps auprès du prince, a décidé de changer les choses. Son nom, Patrick Buisson, et nous parlons ensemble aujourd'hui du dernier livre d'Ariane Chemin et Vanessa Schneider, Le Mauvais Génie. Ariane Chemin, bonjour.
Bonjour.
Cette émission, mes chers auditeurs, nous la voulons pleine de surprises, pleine de révélations. Elle appartient à ceux qui ont le désir de transmettre, de raconter à la jeune génération l'histoire du gouvernement des hommes, leur caractère, leurs envies, la puissance du rêve, mais aussi l'entrave de la perfectibilité. Les grands hommes, aux conseillers obscurs, rien, non, rien ne nous échappe. Nous écumerons les ministères comme on écume les bars, fouillant l'histoire comme on cherche un trésor, afin de comprendre ce monde qui nous gouverne. Un empereur se lève un matin, il se couchera fugitif, car que voulez-vous, les hommes passent, les nécessités, elles, demeurent. Vous êtes bien sur l'antenne Transistor, et vous écoutez, après nous, le déluge.
Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme, et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun.
Écrit, je lui dis, oh, c'est peut-être un peu fort. Finalement, j'ai dit, ben non, j'exprime ce que je pense.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ariane Chemin à l'occasion de la parution de son dernier livre, Le Mauvais Génie, relatant l'histoire d'un conseiller obscur et parfois sulfureux, Patrick Buisson. Ariane Chemin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor.
C'est un plaisir.
Ariane Chemin, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse de la rédaction de votre livre ? Qu'est-ce qui vous a inspiré la rédaction de ce livre ? Et comment est-ce que s'est passée cette enquête au cours des 8-9 mois dont vous me parliez tout à l'heure qui ont permis la rédaction de ce livre ?
Écoutez, on était deux journalistes du Monde, Vanessa Schneider et moi, à suivre. Donc Vanessa suivait Nicolas Sarkozy depuis très longtemps, donc elle avait pu mesurer sans forcément, c'était compliqué d'en prendre toute la mesure, mais l'influence que ce conseiller pouvait avoir sur le candidat puis le président Nicolas Sarkozy. Et moi j'avais été très intriguée au moment de la révélation des enregistrements, c'est-à-dire quand on a appris que ce conseiller venu de l'extrême droite enregistrait tous les conseils des ministres, toutes les conversations, tous les entretiens qu'il avait eus avec le président et avec d'autres, de découvrir que derrière tout ça, il y avait aussi une sorte d'atmosphère à la Bazin, une sorte de nœud de vipère incroyable avec une assistante, un fils qui en voulait beaucoup à Patrick Buisson. Et on s'est dit, mais il faudrait creuser cette histoire qui a l'air hallucinante. Tout a l'air de s'en mêler. C'est ce que nous avons fait, donc, en explorant à la fois les archives à la BNF pour savoir ce que Patrick Buisson avait pu écrire dans sa jeunesse, mais aussi en allant voir énormément de gens, des avocats, des hommes politiques, des historiens aussi, beaucoup, puisque c'était le patron de la chaîne Histoire. Et au fond, c'est un roman, une sorte de polar qui a dépassé nos espérances.
Et alors, à propos justement de personnages tellement typés, tellement presque haut en couleur, ou disons plutôt sombre pour le coup, qu'on pourrait l'assimiler à une réelle composante fictionnelle et romanesque dans ce personnage et dans ses motivations, tant la puissance de son caractère impressionne à la lecture. Et ça, c'est intéressant parce que je pensais justement à Iago dans Othello de Shakespeare, où justement les motivations de ce grand manipulateur qui justement influence tout au long de la pièce progressivement les personnages vers son but, qui est un but personnel comme celui de Patrick Buisson que vous présentez dans votre livre, et échappe toujours chez Shakespeare dans Othello les motifs profonds de Iago, puisqu'il se tait et meurt en fait au moment où Othello l'interroge sur la cause de ses méfaits. Et donc je voudrais savoir pourquoi Patrick Buisson a agi de la sorte, notamment dans la divulgation, puisqu'on connaît ses motifs en tant que conseiller politique, puisque c'est un homme qui vient d'une vieille ligne de l'extrême droite, donc une ligne plutôt monarchiste et qui déteste la République, qu'on pensait d'ailleurs terminée après la Seconde Guerre mondiale et après l'Algérie française, donc quelque chose du passé qui en fait ressurgit, ce qui est tout à fait fascinant. Et donc ma question est, quelles sont les motivations, non pas donc de l'action, mais de la divulgation de ces écoutes et qui ont lancé en fait l'affaire des écoutes et la popularité, la triste et la sombre popularité de Patrick Buisson?
Alors vous avez raison, c'est un personnage romanesque, c'est pas un hasard si certains l'ont surnommé, vous parlez de Iago, mais d'autres l'avaient surnommé Rasputin ou Père Joseph. Les motivations, elles nous sont, d'abord ce qui nous a frappé avec Vanessa, c'est qu'il enregistre depuis toujours. Depuis qu'il a 20 ans, depuis qu'il fréquente Nanterre, il a enregistré. On a même découvert qu'il avait un stylo enregistreur à une époque. Quand il était à Minute Puis à Valeurs Actuelles, il avait toujours une magnéto dans la poche, même quand il allait voir des politiques, par exemple Charles Pasqua, etc. Et il ne leur disait pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez typique. La parano, c'est typique de l'extrême droite. Hein. C'est un motif qu'on retrouve très souvent à l'extrême droite. Donc il a commencé, quand on a découvert qu'il enregistrait, il a commencé avec son avocat a avancé plusieurs raisons. D'abord, il disait « je vais écrire un livre de mémorialiste ». Et un bon mémorialiste ne prend pas de notes, il enregistre. Puis il a dit « l'enregistreur se déclenchait tout seul dans ma poche ». Évidemment, ça ne tenait pas la route. Moi, je pense que Patrick Buisson est un maître chanteur. Et détenir des enregistrements, c'est à la fois le signe d'un maniaque, hein, parce qu'il enregistrait aussi son fils quand il était jeune, enfant, etc. Et puis, c'est le signe de quelqu'un qui veut peser sur les gens. Et quand on a des enregistrements, on est très fort. Parce qu'évidemment, quand on ne sait pas qu'on est enregistré, on peut raconter plein de choses. Et Dieu sait si en politique, hein, on n'a pas de surmoi dans une conversation privée. On raconte des horreurs, on peut aussi redire des complots, des scénarios. Et donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que tout le monde, comme on continue à avoir... Il ne meurt pas comme Iago avec ses secrets. Il en use d'une certaine manière. Par exemple, il ne cesse de dire « je vais écrire un livre ». Personne ne sait trop ce que ce sera. Mais on peut imaginer que ce sera un livre de mémorialisme. On peut aussi imaginer que ce sera un livre de révélation insensée. Bon. Et puis, je trouve qu'on voit qu'il a établi une certaine complicité. Par exemple, je pense à Laurent Wauquiez, qui va être le futur candidat pour la région Rhône-Alpes. Il dit, par exemple, « je continue à avoir Patrick Buisson, je n'aime pas renier mes amitiés ». Mais on peut se demander aussi si Patrick Wauquiez n'est pas tenu par Patrick Buisson. Est-ce qu'il n'a pas été enregistré, lui aussi, à son insu? Donc, c'est vrai que c'est un scénario romanesque en diable, parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée. C'est une histoire, effectivement, de chantage. C'est une histoire d'obsession. C'est un personnage de roman.
Et alors, justement, vous évoquez Laurent Wauquiez. Moi, je voudrais savoir, à la lecture, je me suis posé cette question. Est-ce que cette espèce de paysage fascinant que vous écrivez, que vous dépeignez à travers le prisme Patrick Buisson, c'est-à-dire l'ensemble d'un monde politique, puisque vous évoquez les affinités qui existent et les affinités certaines avec Jean-Luc Mélenchon, est-ce que cette espèce de réseau de liens qui existent entre droite et gauche, en dessous de main, en dehors des étiquettes, donc on est sur le terrain de l'humain, humain est propre à Patrick Buisson, ou est-ce que c'est le quotidien du monde politique, c'est-à-dire des conseillers de l'ombre qui passent de gauche à droite, qui ont de l'influence, des amitiés, qui actionnent la politique. On voit vraiment une sorte de totalité qui se meut autour de Patrick Buisson. Et ma question, c'est, est-ce que c'est une règle pour les autres aussi en politique, ou c'était vraiment une sorte de charme, fascination ou le force de Patrick Buisson?
Je crois que Patrick Buisson, comme souvent les personnes d'extrême droite, est quelqu'un de très cultivé, qui connaît par cœur l'histoire de France, et qu'au fond, les réelles amitiés qu'il a pu nouer, parce qu'il méprise beaucoup de gens, c'est sans distinguo politique avec ceux qui ont la même culture, qui partagent la même culture que lui. Un trotskiste, il a un peu la même culture, un vrai trotskiste comme l'a été Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Christophe Cambadélis, avec qui il s'entendait très bien aussi. Ils partagent les mêmes visions systémiques, ils ont les mêmes références historiques. D'ailleurs, c'est amusant de voir que, par exemple, avec Michel Field, qui était son grand complice à la chaîne Histoire, il chantait les mêmes chants révolutionnaires, il connaissait une sorte de corpus culturel, je ne dis pas idéologique, culturel commun. Et c'est ça qui leur a permis de tisser des liens, et sans parler de communauté d'idées, parce que c'est pas le cas, en tout cas il y avait une sorte de complicité, et effectivement vous disiez c'est quelque chose qu'on croyait révolu, c'est une Patrick Buisson, c'est l'extrême droite qui est issue du monarchisme anti-républicaine. Et au fond, c'est la résurgence, ces complicités qu'on a mises à jour sont la dernière résurgence d'amitié née avant dans l'entre-deux-guerres ou juste après, pour le trotskisme. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un monde, le monde politique, où finalement on se reconnaît, on se renifle, et si on a les mêmes références, eh bien on peut se trouver.
Et est-ce que vous pensez que sur la jeune génération, c'est la même chose? On retrouve cette espèce de voyage et d'affinité culturelle? Ou est-ce que c'était propre à une ancienne génération qui était nourrie de lettres et de culture, comme l'est la génération de Patrick Buisson?
Eh bien, en tout cas, je constate que si Patrick Buisson s'est si bien entendu avec Laurent Wauquiez, c'est que Laurent Wauquiez est un historien... de talent. Il a quand même été major à l'agrégation d'histoire. Il a été très marqué, m'a-t-il raconté, à la fois par l'étrange défaite et aussi par le fait, me racontait-il, que sa prof de Cagne, Henri IV, lui disait, voilà, si la République de Weimar s'est effondrée, c'est parce qu'on ne s'est pas assez occupé des classes moyennes. En tout cas, il aime les références historiques. Donc je pense qu'ils avaient des choses à se dire avec Patrick Buisson. Néanmoins, évidemment, ça n'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a une chose qui me frappe. Chez Laurent Wauquiez, par exemple, c'est l'obsession des classes moyennes, alors que Patrick Buisson a l'obsession des classes ouvrières. Mais la classe ouvrière, il n'en reste plus beaucoup. C'est une référence de l'entre-deux-guerres, mais qui vaut moins aujourd'hui. Donc je pense que ce qui perdure, ce sont les références historiques. C'est-à-dire ce souci de se retourner derrière soi. Bon. Et puis évidemment, si Patrick Buisson est autant fasciné, c'est que c'est vrai qu'il a une connaissance hors pair de l'électorat français et de la France. Oui, ça, il l'a, comme souvent chez ces gens qui ont vu voué un culte à Maurras, il l'a chevillé au corps. Voilà. Autant l'international ne l'intéresse pas du tout, il ne parle pas de langue étrangère, il ne voyage jamais, il ne sort jamais de France, il a peur de l'avion. Mais en revanche, la France des cantons, il la connaît.
Alors, autre chose fascinante qui, justement, pour reprendre ce que vous dites, m'a frappé à la lecture de votre ouvrage, c'est justement l'importance que revêt la culture, non seulement donc dans des rapports comme on vient de le présenter ensemble, entre personnes, d'amitié pour faire naître des affinités, mais notamment dans le rôle que peut avoir l'idée, la culture dans la direction d'un pays, puisque c'est ce qu'on voit sous Sarkozy, qu'on décrit parfois comme étant peu enclin aux références culturelles et aux idées de ce genre, aux idées savantes et universitaires. On retrouve chez Patrick Buisson, en tout cas, c'est lui qui a été très proche de Nicolas Sarkozy, l'importance de l'idée et même la passion, la conviction de l'idée. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, on assiste bien dans le débat public à une idée qui est beaucoup moins présente, qui est beaucoup plus à coup de com, de présentation que de l'idée, alors que dans le derrière le rideau, on retrouve la culture. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde?
Bien sûr, parce que d'abord, c'est une logique politique. C'est-à-dire Patrick Buisson, c'est un petit-fils ou un héritier de Gramsci. Je pense que c'est très important. La culture, c'est plus important. Il n'arrête pas de dire à Nicolas Sarkozy, surtout l'économique, le social, n'en fais pas trop, les gens s'en foutent. C'est pas ça qui compte. C'est pas un hasard si, après la victoire de 2007, quand Nicolas Sarkozy lui dit « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Comment puis-je te remercier pour cette élection que tu as porté. Il dit, il aurait pu avoir LCI, dit-il, enfin, en tout cas c'est ce qu'il dit, et il choisit la chaîne Histoire. D'abord parce que ça l'intéresse, mais parce qu'il pense qu'il faut aussi revisiter, réécrire l'histoire. Il fait partie de ces gens, évidemment, qui pensent que les gaulo-communistes ont écrit l'histoire, les livres d'histoire après 45, et qu'il faut revoir tout ça, réécrire l'histoire de la guerre d'Algérie, évidemment. Donc oui, l'histoire a beaucoup d'importance, il pense que c'est un pivot, mais il en a une vision utilitaire, de même qu'il a une vision utilitaire comme Maurras de l'Église, c'est-à-dire que c'est pas la foi qui le guide, mais c'est l'usage qu'il peut faire et l'importance que peut revêtir l'Église dans le champ politique. Eh bien, il a une vision utilitaire de la culture.
Sur la fin de votre livre, justement, Alan, donc lorsque l'on termine ce livre, on reste un petit peu quelque part, non pas sur notre fin, mais on a une dernière question, puisque le livre en fait se termine par une interrogation, et sur justement donc cette brouille, puisqu'il faut l'appeler telle qu'elle est, entre Patrick Buisson et Nicolas Sarkozy à la suite donc de la révélation des écoutes téléphoniques. Et vous dites, alors j'ai été assez surpris, que Nicolas Sarkozy, loin de se fâcher, de se brouiller éternellement avec son conseiller, avec son ancien proche conseiller, restait ouvert en fait à toutes sortes de rapprochements possibles, de mea culpa pas de la part de Patrick Buisson. Et alors j'étais assez surpris. Alors vous vous arrêtez ici, est-ce par méconnaissance, par peut-être un futur ouvrage là-dessus, par absence d'informations dans le monde? Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus, parce que ça nous intéresse?
En fait, c'est l'histoire réelle qui est pleine de suspense, et d'où on n'a pas voulu entretenir ce suspense. Le suspense, c'est là. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas exigé de Patrick Buisson les 15 000 euros que celui-ci lui devait suite à la publication de certains enregistrements sur un site, Atlantico, et dans le Canard enchaîné. Patrick Buisson a été condamné à verser 15 000 euros à Nicolas Sarkozy et à Carla Bruni. Cette dernière a réclamé la somme et Nicolas Sarkozy n'a pas fait. Pourquoi ? On sent qu'il ne veut pas fâcher Patrick Buisson. Et pourquoi il ne veut pas fâcher Patrick Buisson ? Il ne faut pas être grand clerc de notaire pour comprendre que c'est un personnage qui peut encore nuire. Et il n'a pas du tout envie que Patrick Buisson, sans doute, raconte le contenu de conversation ou publie des extraits, des verbatims dans le livre qu'il promet, s'il le fait un jour. Donc on sent que l'affaire n'est pas terminée, à vrai dire. C'est pour ça que c'est une matière totalement romanesque, parce qu'on a affaire à un maître chanteur.
Mais alors, vous dites quand même qu'il est prêt jusqu'à pardonner, non pas seulement tolérer, mais pardonner. Alors la question que je vous poserais, c'est parce qu'il peut nuire ou parce qu'il peut encore servir? C'est toute la question qui est quand même lourde de conséquences pour notamment 2017.
Je pense que c'est plus parce qu'il peut nuire, mais en politique, il n'y a jamais de point final. Moi, ce qui me frappe, c'est que la politique, c'est comme une scène shakespearienne, au fond. C'est-à-dire qu'on ne meurt jamais, on croit qu'on est mort, mais on ressuscite. Et on croit qu'on ne pardonnera jamais, et parfois on pardonne. En politique, le pardon existe là où il n'existerait nulle part ailleurs, donc l'avenir est ouvert.
C'est donc sur cette fin shakespearienne et en même temps sur une note de suspense pour la suite que nous vous quittons, chers auditeurs. Ariane Chemin, je vous remercie d'avoir accepté encore une fois notre invitation, et nous vous souhaitons plein de succès pour votre magnifique livre que je recommande à tous nos auditeurs. Je rappelle le titre, Le Mauvais Génie, paru chez Fayard.